Bonjour à vous, bienvenue donc à la maison du banquet dans l'abbaye de la Grâce pour cette journée donc à voix haute. C'est la troisième édition qui a lieu toujours vers la fin juillet. Donc je vous rappelle que le propos consiste à proposer des expérimentations, des aventures de création qui croisent le texte écrit, littéraire, et la mise en oralité de ces textes, donc par des lectures orales, des performances, des improvisations et croisements pour certaines des propositions de la journée avec la musique, donc c'est des lectures musicales ou des lectures concerts. Voilà, donc ça va s'enchaîner au cours de la journée. Voilà, donc vous avez le programme, je ne vais pas redévelopper ce qu'il y a dans le programme pour ne pas perdre de temps. Chaque lecture, performance, lecture, concert sera précédée ou suivie d'un tout petit entretien avec l'auteur qui sera impliqué à ce moment-là. Entretien mené par Jocelyn Bonnerave, sauf pour le tien, voilà. Je n'en dis pas plus, hein, encore une fois vous avez le programme. Je vous propose que nous démarrions tout de suite avec une conférence action. Alors ça va déménager, attention, avec Yves Le Pestipon qui est à la fois poète, théoricien de la littérature, etc. et qui fait des 400 coupes un peu partout et qui pénalise tous les lieux où il passe. Alors attention, la pénalisation des lieux, ça risque de tourner à la pénalisation des lieux. Hein, c'est voilà. Et donc, donc ça va commencer par un mini entretien. Donc, vive Le Pestipon que je remercie beaucoup de sa présence avec Jocelyn Bonnerave. Voilà, et on enchaînera au fur et à mesure.
Monsieur Le Pestipon.
Monsieur Bonnerave.
C'est un honneur. Donc l'interview, c'est une forme d'oralité. Hein, donc on s'est dit que c'était raccord de faire des petites interviews, oui, avec chaque artiste invité. Alors, je ne vais pas procéder à une présentation de chaque artiste, puisque vous avez déjà dans les petits documents qu'on a distribués normalement de quoi vous mettre sous la dent et situer chaque personne. Donc j'avais envie de tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec chacun,
de poser des questions par rapport à cette
espèce de désir de monter sur scène quand on est un littéraire et qui est une chose à la fois qu'on peut comprendre et qui est pas complètement évidente parce qu'un livre, bah, on a envie de le lire. Est-ce qu'on a envie d'entendre du livre autant que de le lire? C'est une vraie question. Donc j'avais envie de donner la parole à chacun des invités du jour pour essayer de mettre ça au net. Voilà. Et Yves, je voulais vous demander d'abord la chose suivante. Vous êtes à la fois un poète, vous pratiquez l'oralité en tant que poète à travers cette forme qu'on appelle la performance, que les poètes sont les premiers à avoir appelé comme tel, d'ailleurs, l'acte verbal. Mais vous êtes aussi professeur de littérature, et on sait que c'est aussi un cadre d'oralité, un cadre dans lequel il peut même y avoir un vrai moment de littérature. Enseigner la littérature, ça peut être un moment de littérature. Et ce que vous allez nous proposer, c'est une forme qui est empreinte un peu aux deux, puisque vous pratiquez la conférence-action, comme le disait Dominique. Donc le terme de conférence-action, peut-être vous en parlerez en tant que tel, il est intéressant, je ne vais pas forcément creuser là-dessus tout de suite, mais ce que j'ai remarqué, c'est que vous n'êtes pas tout à fait le seul à faire ça, même si vous le faites d'une façon unique, comme vous allez vous en rendre compte, mesdames et messieurs. Je vois la conférence, la forme conférence se développer dans le milieu artistique, disons, comme une vraie forme artistique. Comme il y a une revendication du caractère artistique de la conférence, comme performance, comme un moment de spectacle. Donc je pense à des artistes très connus comme Jean-Yves Jouannet ou Éric Duikert ou Valérie Mrejane parmi plein d'autres. Et je voulais vous demander comment est-ce que vous expliquez cette espèce de succès de la conférence comme forme artistique aujourd'hui.
Oui, alors il me semble que dans la conférence, quand on fait une conférence, on s'adresse à un public pour lui dire un certain nombre de choses. Or, il se trouve qu'il y a des gens qui ont envie que des gens leur disent des choses. Et effectivement, on s'aperçoit que, quelque ennuyeuses que soient les conférences, il y a souvent des gens qui ont envie d'écouter des conférences, même très ennuyeuses, parce que les gens désirent avoir du savoir. Et d'autre part, il y a des gens qui ont envie de communiquer par cela. Alors, donc, il y a une ancienneté de la conférence. Déjà, les sophistes de l'Antiquité grecque faisaient des conférences, il y avait du monde, il y avait de très bons conférenciers, et on peut se dire, quelque part, les apôtres et autres, etc., dans l'histoire du christianisme, aimaient faire des conférences. Alors, il y a une tradition de la conférence religieuse, philosophique, universitaire, académique en général. Et peut-être là, maintenant, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, bon, d'une part, il y a beaucoup de conférences qui sont faites par différents moyens, la radio, Internet, la télévision et autres. Donc, il y a des tas de gens qui font des conférences. Enfin, il y a des gens comme Hubert Reeves, par exemple, ou Coppens, qui sont des maîtres de la conférence internationale. Il y a un désir de conférence, mais en même temps, la conférence vient quelque part être traversée par, disons, des réalités de l'art. D'une part, effectivement, la performance, donc des actions avec le corps, que des poètes, par exemple, ou des comédiens, mais c'est pas tout à fait la même chose ici, font sur les scènes. Et effectivement, la conférence est une performance. La performance peut être parfois une conférence. Et d'autre part, la conférence répond peut-être à un aspect qui est à la fois intéressant et discutable de la poésie contemporaine. C'est la poésie contemporaine, parfois, un peu comme la musique, ne dit rien. C'est-à-dire, effectivement, il y a des enchaînements de sons, des enchaînements d'images, qui ne sont pas très didactiques, va-t-on dire, qui ne donnent pas de sens, véritablement. C'est à la fois une gloire de la poésie contemporaine et enfin un défaut, enfin, quelque part. Et la conférence, elle, dialogue avec la poésie contemporaine, y compris de la performance, en étant comme la performance, une action avec le corps, une action en partie improvisée, mais en tentant de dire quelque chose, mais aussi, éventuellement, en réfléchissant sur ce qu'elle dit, en interrogeant ce qu'elle dit. Et par exemple, donc, il y a une conférencière, qui s'appelle Esther Ferrer, qui parfois fait des conférences actions qui durent 1h30, 2h, en ne disant absolument pas un seul mot. Et donc, pendant 1h30, 2h, elle manipule des notes, elle s'agite, elle a un micro. On sent qu'elle parle vraiment de choses très importantes, à part qu'elle ne dit rien. Mais à la fin, on est convaincu.
Vous avez des questions? J'enchaîne avec une autre question, alors. Parce que dans votre pratique de l'oralité, poétique et savante, il me semble qu'il y a un autre emprunt qui est... toutes les religions ont affaire avec l'oralité, et vous héritez d'un certain nombre de souvenirs des religions. Vous empruntez, ci et là, dans vos travaux, à l'exégèse religieuse, par exemple. Vous aimez donner du sens, même aux choses les plus ordinaires, des objets stupides, des endroits qui sont des non-lieux. Et donc, vous êtes à la fois dans une sorte de recherche de sens et d'un sens ultime, et dans le rapport à l'humour et la mise à distance de ce sens. Et je me demandais comment on faisait justement pour arriver à articuler le non-sens et Dieu, l'intensité de l'être et l'humour, les blagues.
C'est-à-dire, il me semble qu'il faut avoir un respect infini pour le non-être ou le quasi-non-être. On parlait tout à l'heure avec quelqu'un de Francis Ponge qui aime beaucoup faire des poèmes magnifiques sur la boue, par exemple, sur un abricot ou sur un cajou. Alors, il prend au sérieux les choses les plus humbles. Et me semble-t-il, pour les prendre au sérieux, il faut en effet vraiment les respecter. Et on va dire, si je prends l'étymologie du mot religion, les relier globalement, alors à la fois entre elles, avec nous, et peut-être avec ce qu'on peut appeler le transcendant, ou le widoum, le diwoum, selon qu'on fait l'anagramme, donc avec la totalité. Alors, il me semble que, effectivement, il y a une possibilité d'articuler une réflexion religieuse très ancienne, très profonde, et moi j'aime beaucoup, j'ai fait des sermons pour France Culture avec des amis pasteurs, en assez grand nombre, et donc, je me revendique parfois comme protestant, avec un certain, des éléments critiques, évidemment, par rapport à cela. Donc, effectivement, il y a effectivement une tradition religieuse, en Occident, et puis en Orient, ou ailleurs, avec des superposition de textes qui multiplie les sens infinis des choses, et on va le voir dans un instant avec quelques nombres, des choses de cela, mais en même temps, il faut en rire comme Rabelais. Alors j'aime bien rappeler une formulation de Victor Hugo qui dit à propos de Rabelais, son éclat de rire énorme est un des gouffres de l'esprit. Et donc, en effet, il y a là quelque chose de très puissant, c'est que Rabelais est en effet un chrétien, entre catholicisme et protestantisme, nourri de Talmud, etc. Il est énormément un rigolo, mais en même temps, c'est pas un rigolo comme, bon, on la voit à la télévision pendant des heures d'émission sans arrêt, c'est quelqu'un dont l'éclat de rire énorme fait creuser, remonte, etc., le sens. Et me semble-t-il, il y a une grandeur de la poésie, dans la tradition, d'être une très grande poésie comique. Alors, tu as parlé de Francis Ponge, de La Fontaine, de Rabelais, de bien d'autres, et je trouve que le rire est un soc puissant de Dieu pour Dieu, on ne sait pas s'il existe, mais vraiment le rire existe, dans un soc puissant de Dieu pour retourner le monde et le rendre intéressant.